Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de Ça se dispute, toujours en direct, bien sûr, sur CNews et toujours face à face. Geoffroy Lejeune, bonsoir.
Bonsoir Lionel.
Geoffroy Lejeune avec Philippe Guibert. Bonsoir Philippe Guibert.
Bonsoir Lionel.
C'est un plaisir de vous retrouver et de vous réunir tous les deux en ce vendredi soir pour évoquer le fait que le référendum sur l'immigration n'est plus à l'ordre du jour. Selon les participants à la rencontre de Saint-Denis, un rassemblement pour Naël dimanche qui pourrait provoquer des tensions et Emmanuel Macron. On va commencer avec ça. Le chef de l'État, absent de la marche contre l'antisémitisme dimanche dernier, le débat est toujours vivace. Beaucoup le lui reprochent, la classe politique, la diplomatie, les Français. Est-ce une erreur? Impardonnable, intéressé répond que son rôle n'est pas de faire une marche. Pour prendre sa défense, Sabrina Agresti-Roubache, la secrétaire d'État chargée de la citoyenneté et de la ville, était sur notre antenne aujourd'hui.
On ne peut pas toujours tout demander et tout faire et en fait tout instruire avec le président de la République. Le président de la République est le garant de l'unité de la nation. Et le rôle du président de la République, et moi je le réaffirme, je l'avais déjà dit avant, on m'avait déjà questionné, est d'être à sa tâche quand nous avons des Français, des concitoyens, nos concitoyens qui sont otages, son rôle est là.
On va revenir sur le rôle du président, sur sa communication, Saint-Denis dans quelques instants, mais on a l'impression que c'est un peu le sparadrap du capitaine Haddock, cette absence à la marche de contre l'antisémitisme Geoffroy Lejeune, et que ça va peut-être l'accompagner longtemps, qu'on va peut-être lui reprocher longtemps, et qu'il pourrait s'agir d'une erreur impardonnable.
Je pense que toutes les erreurs, ou la plupart des erreurs, sont pardonnables à condition qu'on demande pardon, on n'en est pas là. Et comment vous dire, si je vous parle de l'affaire Benalla maintenant, vous savez très bien de quoi il s'agit. Tout le monde, et je pense que la plupart des Français se souviennent de ça. Il y a des choses qui restent, d'autres qui ne restent pas. La piscine de Brégançon, par exemple, les gens ont oublié, parce que c'était très futile. L'affaire Benalla, moi, je considère que c'était très futile par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière. Pas tellement, d'ailleurs, sur l'absence. Moi, on avait dit, d'ailleurs, avec Philippe, la semaine dernière, on pourrait avoir un débat très long et honnêtement très intéressant sur la présence d'un président de la République dans une marche. Il y a des arguments très intéressants dans le pour, dans le contre, etc. Mais je crois que ça n'était pas le sujet. Je pense que le sujet, c'est les raisons pour lesquelles il ne voulait pas y aller. Et c'est ça qui pose problème. Et on les connaît. J'aime beaucoup Sabrina Agresti-Roubache. Si j'étais en difficulté, j'adorerais l'avoir comme avocate. Mais elle fait pas. Enfin, elle n'est pas convaincante sur le fond parce que ce qui est dramatique, c'est que on savait avant, par des indiscrétions dans la presse, que ce qui bloquait Emmanuel Macron, c'était de braquer une partie de la population française, en l'occurrence les musulmans, pas les islamistes, hein, les musulmans. Et on sait depuis que c'est exactement ça la raison. Il l'a dit d'ailleurs déjà pour commencer, il l'a formulé lui-même en Suisse. Et ensuite on a cette histoire de Yacine Bellatar qui est le tampon qui achève définitivement de sceller la raison de cette absence. Et c'est ça qui est c'est ça qui est grave et c'est ça qui inquiète pour l'avenir.
Peut-on considérer qu'il a été sous l'influence de Yacine Bellatar ou en tout cas ses proches, ses conseillers? Non mais attendez, ce serait quand même grave que, avec tout le respect qu'on lui doit, qu'un humoriste dicte la conduite d'un président, à savoir s'il faut aller, même s'il est en train de prendre le pouls de la société, s'il doit aller à une marche en public contre l'antisémitisme, Philippe Guibert.
Honnêtement, je ne crois pas que ce soit Bellatar, mais je n'ai aucun élément probant. Je pense que ce que disait Geoffroy n'est pas totalement faux sur ce qui l'a guidé, et que Bellatar a été un symbole de ça. Et plus un symbole qu'une cause, à mon humble avis. Mais vous savez, s'il avait dit dès le départ, très vite, en disant « j'approuve totalement cette marche, mais le rôle d'un président n'est pas d'y aller », et qu'il s'était tenu à cette ligne, et qu'il n'y avait pas eu toutes ces communications amateurs qui ont bavé un peu partout, de Bellatar aux Échos dans la presse, plus ses propres commentaires qui se sont ajoutés là-dessus, je pense qu'on en parlerait moins. Ce qui est terrible dans tout ça, c'est l'impression de flottement, l'impression d'hésitation, l'impression d'ondoyer, de louvoyer, tout ça pour finir par une communication catastrophique. C'est ça l'erreur, c'est ça la faute. C'est pas en soi de ne pas être venu à cette manif, ce qui était une position qui pouvait se défendre. Et ce qui me frappe beaucoup dans l'attitude d'Emmanuel Macron, c'est qu'on trouve ça sur la question de la marche contre l'antisémitisme, mais aussi un peu dans sa démarche diplomatique. C'est-à-dire qu'encore une fois, la position de la France, qui est de mettre en garde Israël et de conserver des contacts avec les pays arabes dans une période de grande tension est parfaitement légitime, et en plus plutôt dans la tradition diplomatique française. Mais sauf qu'elle est extrêmement mal expliquée et qu'on a l'impression que ce qui pourrait être une ligne est là aussi un louvoiement, une ondulation, une hésitation, des revirements, et que tout ça n'est pas clair. Vous savez, De Gaulle disait, je cite de mémoire, « Dominer les événements et imprimer sa marque et en assumer les conséquences, voilà ce qu'on attend du chef ». Et on a l'impression que Emmanuel Macron est plus ballotté par les événements qu'il ne les domine, et que du coup, il a beaucoup de mal à y imprimer sa marque, et que ce qui reste, c'est l'hésitation, le louvoiement, et une communication qui est assez catastrophique.
Pour reprendre une expression populaire, a-t-il le cul entre deux chaises ?
Mais on l'a forcément aussi. Si. Je veux dire, quand on est chef de l'État, on a, comme vous dites, le corps entre plusieurs chaises, même. Il n'y en a pas que deux.
C'est pas du tout une grossièreté. C'est dans le dictionnaire. Hein. Vous pouvez le prononcer.
Ça va. Alors, mais je crois qu'il n'y a pas que le postérieur qui l'est. Et donc, mais ça, c'est dans l'exercice du chef de l'État et de n'importe quelle politique de haut niveau, d'avoir à gérer des contradictions. Le problème est de savoir comment on en sort. C'est le job, si j'ose dire, d'être face à plusieurs chaises.
Sur
faut
le
pas tomber entre les chaises.
L'influence ou pas d'ailleurs de Yacine Bellata, je vous cède la parole dans un instant, Geoffroy Lejeune. Mais écoutez d'abord Sylvain Maillard, président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, sur cette thématique.
Je regrette parce que je pense que sa place n'est pas d'être reçue par des collaborateurs de l'Élysée.
Et peut-être que des conseillers d'Emmanuel Macron prennent des initiatives qu'il n'aurait pas dû prendre, ou c'est le président qui peut...
Je pense que le président n'a rien à voir dans cette initiative.
Fut un temps, il était en odeur de sainteté à l'Élysée. Il a été mis en avant, notamment par Emmanuel Macron.
Je peux pas être plus clair, je le regrette.
Le président n'a rien à voir dans cette initiative, mais il y a quelque temps adoubé, nous dit Sylvain Maillard. En tout cas, il lui a ouvert la porte de l'Élysée. On parle de Yacine Bellata, Geoffroy Lejeune.
Sylvain Maillard n'en sait rien, c'est ça la vérité. et il n'a pas été seulement adoubé, il a été nommé, vous savez, à un poste à la ville. Enfin, pas, il n'était pas au gouvernement, évidemment, mais il avait un poste institutionnel.
Conseil.
Exactement. Et quand Emmanuel Macron enterre le rapport Borloo, Yacine Bellatar est dans la salle. Donc c'est un acteur, il a été intronisé acteur institutionnel par Emmanuel Macron. Pourquoi ? Ça peut se comprendre d'ailleurs. Yacine Bellatar, il est très représentatif d'une jeunesse musulmane, pas islamiste, hein, musulmane, un peu vindicative, qui refuse l'assimilation. Il se trouve que je l'ai pratiqué un peu à la télévision chez Cyril Hanouna. Donc du coup, il venait souvent en plateau et on a eu des affrontements.
Pas de belles expériences.
Et bah non, mais alors Cyril Hanouna, c'était une émission géniale parce que c'était la France dans toute sa diversité, ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a de pire, etc. Et Yacine Bellatar faisait partie de la France. Donc j'ai vu comment il se comportait. C'est un type intelligent. C'est un type cortiqué, il sait ce qu'il pense, il a une ligne à défendre. Il peut lui arriver d'être drôle, je sais que tout le monde lui critique, lui dénie la qualité d'humoriste, mais c'est vrai qu'il a quand même de la répartie. Et il peut lui arriver d'être dangereux aussi. Je pense que ce qu'il défend est dangereux. Encore une fois, je vous dis, c'est pas un islamiste au sens où c'est pas quelqu'un qui prendra les armes un jour, c'est pas quelqu'un qui partira en Syrie, c'est pas ça. C'est plus pernicieux que ça. Il nie la possibilité de l'assimilation. C'est-à-dire quand vous lui dites ce que c'est pour vous, pour moi en l'occurrence, d'être français, et ce qu'il faudrait qu'il abandonne dans sa culture d'origine, etc., pour être français, il ne veut pas ça. Et de fait, le système dans lequel on vit ne lui impose pas ça. Donc il est dans son droit, après tout. Si on veut du multiculturalisme, on aura Yacine Bellatar, c'est normal. En tout cas, on aura des Yacine Bellatar. Et donc du coup, Macron s'en sert comme d'un thermomètre de la jeunesse musulmane, et c'est à ce titre-là qu'il est reçu par des conseillers à l'Élysée. Et en fait, quand vous regardez la situation de la France, c'est pas du tout anormal. Si vous voulez comprendre ce que pense une partie des musulmans de France de la marche, et qu'est-ce qu'il fait ? Il joue son rôle. Il le dit. Il dit que ce serait vu comme une erreur impardonnable d'y aller. Donc, en fait, tout ce qui se passe est normal. À partir du moment
qui est pas normal, c'est que ça se sache. Parce que je suis parfaitement ton raisonnement, mais c'est de tout temps. J'ai fait 25 ans de politique à Matignon, à quelques endroits. De recevoir des gens pour prendre la température, pour tester, pour savoir un peu ce qu'ils pensent, pour savoir quelle influence ils peuvent avoir, etc., ça fait partie du boulot politique. Mais il y a des gens qui sentent un peu le souffle. qu'on doit recevoir en secret. Si on n'est pas capable de garder le secret, si la personne qu'on reçoit n'est pas fiable, est-ce que c'est elle qui a parlé à l'Express ? Je crois que c'est l'Express qui a sorti l'info. Faut pas le recevoir. Donc derrière tout ça, je trouve qu'il y a une... Que le cabinet est là pour ça, pour rencontrer des gens à la place du président. Ça fait partie du boulot politique de toute éternité.
Philippe Guibert, cela veut dire que le cabinet a peut-être rencontré aussi des gens qui ont peut-être conseillé au président de participer à la marche.
Mais évidemment.
Et là, force est de constater que sa décision, il l'a pris à l'aune de ce que lui a dit Yacine Bellatar, qui est représentatif des quartiers.
Enfin,
d'une partie des quartiers. Donc cela veut dire que le président est influencé par cette idée-là tout de même.
Non, mais je pense qu'Emmanuel Macron a comme obsession de ne pas renouveler les émeutes de juillet dernier. Ça, je pense que c'est son obsession. Après tout, encore une fois, que ça soit une forte préoccupation, on peut le comprendre, mais tout dépend comment on habille et comment on domine les événements et comment on y imprime sa marque, comme disait De Gaulle. Et là, il n'a pas su le faire. Voilà. Alors après, il y a... Est-ce que c'est Bellatar qui a parlé ? Est-ce que c'est des indiscrétions de l'Élysée ? Mais c'est presque encore plus grave. Parce que ça veut dire que c'est un panier de crabes. Parce que pour sortir une info comme ça, dont on sait qu'elle va faire mal au président, c'est pas bon signe. Donc il y a eu un dysfonctionnement dans la maîtrise de la communication de l'Élysée qui est grave et qui est un signe de dysfonctionnement.
Y a-t-il donc un danger à toute cette communication, à ces dysfonctionnements également ? Et comme le disait ce matin Patrick Bruel sur Europe 1, est-ce que la République est vraiment en danger avec ce débat sur l'antisémitisme, ces actes antisémites qui ne cessent d'augmenter, le conflit au Proche-Orient et donc l'inquiétude de certaines personnalités comme l'acteur-chanteur Patrick Bruel?
Ça faisait du bien de voir cette manifestation dans laquelle il y a eu 200 000 personnes en France. Alors certes, on aurait pu espérer plus de représentation, de tout bord, mais on peut se réjouir qu'il y ait eu 200 000 personnes qui se lèvent à un moment donné pour dire non à ce fléau. Sur un sujet comme l'antisémitisme, on veut entendre tout le monde, on ne veut pas entendre uniquement des artistes de confession juive. C'est surtout ça dont on a besoin. Toutes les voix doivent s'élever, comme toutes les voix s'élèvent à chaque fois qu'il y a un sujet. Je me suis levé à chaque fois qu'il y avait un sujet. S'il y a un sujet sur l'islamophobie, je serai le premier à me lever. S'il y a un sujet sur la communauté LGBT, je serai le premier à me lever, et je l'ai été. Quand une minorité, ou en tout cas une communauté, est menacée, c'est la société entière qui est menacée. C'est la République qui est menacée.
Le nœud du problème, Geoffroy Lejeune, réside peut-être dans ce que vient de dire Patrick Bruel, c'est que dans les manifestations, quelle que soit la cause, et là en l'occurrence cette marche contre l'antisémitisme, les artistes de confession juive prennent la parole. Mais là en l'occurrence, les autres ne le font pas.
C'est marrant, j'étais en train de me demander, en écoutant Patrick Bruel, combien d'artistes qui ne sont pas de confession juive j'ai entendu parler de ce sujet avec une voix qui portait un peu. Je me souviens de Vianney, le chanteur.
Oui, vous avez raison.
Qui d'ailleurs a révélé avoir eu des menaces de mort après l'avoir fait. Ouais. Et je pense qu'on a fait le tour. Et d'ailleurs, c'est pour ça que cette situation, elle est super inquiétante. C'est qu'en réalité, tout le monde aujourd'hui en France a compris qu'on vit dans la terreur soit de nouvelles émeutes, soit en tout cas de la terreur de la réaction d'une partie du peuple français, puisque ce sont des Français, qui est opposée à peu près à tout ce qui constitue la France. C'est ça qui se passe. La politique étrangère de la France aujourd'hui, je pense, je vais faire un raccourci,
ça, je suis moins sûr,
volontairement très grossier, mais c'est fait exprès. La politique étrangère de la France aujourd'hui est conditionnée à l'état de nos banlieues. La participation du président de la République à une manifestation contre l'antisémitisme est conditionnée à l'état de surchauffe de nos banlieues. En fait, Yacine Bellatar décide de la politique de la France. C'est ça mon parallèle très grossier. Mais comme il est le thermomètre de cet état de fait, à la fin, si vous voulez faire tirer un trait entre les phénomènes, c'est un peu ça qui se passe. C'est-à-dire que Emmanuel Macron le dit. Il dit « je suis garant de l'unité du pays ». Et ce qui lui fait peur à lui, président de la République, c'est que nos banlieues décident tout à coup de faire sécession sur cette question-là. C'est super inquiétant. Philippe, je sais que tu es un homme de gauche et que tu crois à beaucoup de choses comme la République une et indivisible, ou alors l'universalisme français des lumières. C'est pas que ça se casse la figure, c'est terminé. Enfin, on a vu cette semaine.
C'est donc la République qui est menacée, comme le dit Patrick Bruel.
Ouais, il a raison, la République, bien sûr. Ouais. Totalement.
Enfin, c'est ça, plus Philippe Guibert.
Mais même là,
l'unité française est menacée.
Ouais, mais ça va avec. Enfin, jadis, ça allait ensemble. Je comprends ce que tu dis et je pense que c'est. Ça n'explique pas que des artistes, je ne crois pas que ce soit la peur d'une émeute de banlieue qui empêche des artistes de prendre position.
Alors, je peux vous dire.
Je pense que c'est du, du marketing communautariste. Alors, voilà. Et puis, deuxième remarque, c'est quand tu dis la diplomatie française est dictée par les banlieues. Non, là, je crois pas. Ouais, je crois vraiment pas. Il y a eu, Le Figaro a publié...
Un peu sous influence tout de même. Ce n'est pas dicté de manière catégorique. Il semble qu'il y ait un courant d'influence.
La tradition, écoutez, depuis De Gaulle, même De Gaulle, on lui avait reproché d'avoir fait une conférence de presse en 1967, extrêmement dure avec Israël. Qui avait été accusé de flirter avec l'antisémitisme. Et il y a toujours eu cet équilibre. Et le pays n'avait pas du tout le même rapport à ses banlieues dans les années 60, 70, 80. Donc, je crois que la diplomatie française obéit à une autre logique. La tradition du Quai d'Orsay, tout le monde la connaît, c'est d'avoir un penchant pour les pays arabes avec lesquels la France a une vieille tradition de relations, etc. On connaît ce débat-là. Il est indépendant, la question des banlieues. Alors peut-être que la question des banlieues en ajoute dans l'esprit d'Emmanuel Macron.
Est-ce que c'est pour cette raison qu'il y a des hésitations ou des modifications de logiciel ou des atermoiements de la part d'Emmanuel Macron dans sa communication concernant le Proche-Orient et concernant Gaza? C'est-à-dire on le sent très pro-israélien dès le début du conflit.
C'est ça.
Ensuite, il demande à Tsahal d'arrêter de bombarder pour épargner les victimes civiles de Gaza.
Oui, mais je suis d'accord avec vous. Il a eu des expressions malheureuses. Par exemple, sa proposition de coalition dont le sens a changé, proposition à laquelle personne n'a répondu, a complètement brouillé son message. Pourtant, dès son voyage en Israël, c'est là où il y a un problème de communication chez Emmanuel Macron aujourd'hui. C'est dès son voyage en Israël, il dit à Benjamin Netanyahou, la guerre ne se fait pas sans règles. Et il va voir, il va en Cisjordanie, il va en Jordanie, il va en Égypte. Donc il fait déjà un voyage qui est dans sa conception, qui n'est pas un blanc-seing total, un soutien inconditionnel, comme on a dit, à Israël. Mais par contre, il la vend très mal, sa diplomatie. Ça, c'est incontestable. Plus les flottements qu'il y a eu entre l'Élysée et le Quai d'Orsay, qui fait que la machine diplomatique française a eu l'impression d'être mise à l'écart, et qu'elle l'a fait savoir, qu'il y a un autre signe de dysfonctionnement. Quand ça fuite un peu de partout, avec des gens qui ne sont pas contents, c'est un signe que la machine de l'État, la machine de l'exécutif plus exactement, ne fonctionne pas très bien.
Il y a une note confidentielle qui a fuité, en effet, c'est ça, des diplomates français qui déplorent qu'il y a un parti pris pro-israélien de la part du chef de l'État.
Alors, c'est pas le cas.
Mais ça n'aurait pas dû fuiter, surtout, aussi.
Mais ça n'aurait de la même manière. Ça n'aurait jamais dû fuiter.
Évidemment. Avant de partir à Saint-Denis dans quelques instants, où certains responsables politiques sont allés à la rencontre d'Emmanuel Macron, un mot peut-être de conclusion sur ce qui a été dit avec
Philippe. Il y a deux choses hyper importantes. D'un mot très rapidement sur les artistes, pardon, mais il y a du marketing communautariste pour certains, c'est une évidence. Moi, je pense à la masse de ceux qui ne sont pas concernés par tout ça et qui sont juste horrifiés par ce qu'ils ont vu le 7 octobre. Ils ne se réveillent pas le matin, c'est des gens qui font des chansons, qui font des films, qui font du théâtre ou du cinéma, qui n'ont pas envie, en fait, en prenant une position qui leur paraît être un truc naturel, qui vient du cœur, etc., de prendre des menaces de mort, de se faire insulter et de se faire menacer d'être égorgé. Et c'est ça qui, ce que j'ai entendu, c'est ça qui a joué beaucoup. Sur l'autre question qui me semble plus importante, le corps diplomatique, évacuons-le très rapidement. Emmanuel Macron est en guerre contre lui depuis très longtemps. Il a parlé d'état profond, etc. Ça m'étonne pas plus que ça qu'aujourd'hui il y a une forme de petite vengeance. Ensuite,
mauvaise gestion de l'affaire.
Oui, non mais
entre l'Élysée et le Quai d'Orsay, il y a une mauvaise gestion.
Je suis d'accord. La question la plus sensible, la plus importante, c'est qu'est-ce qui a dicté la politique étrangère de la France? Moi, je maintiens quand même que je crois vraiment que c'est la politique intérieure qui a guidé la conduite du chef de l'État. Il y a un aveu, c'est en effet ce que disait Lionel, le changement de pied absolu entre le moment où on parle de coalition internationale contre le Hamas et la fin.
C'est un changement. Attention, et puis en plus, c'est pas le même moment, parce qu'une guerre, ce qu'elle était le 8 ou le 9 octobre, elle ne l'est plus le 17 ou le 18 novembre.
Oui,
il s'est passé un mois, il y a eu 40 jours de bombardement. Oui, donc, hier soir, la directrice du programme alimentaire de l'ONU, qui n'est pas une islamo-gauchiste, c'est la veuve du sénateur McCain américain, disait il y a un risque de famine à Gaza. Ce sont des choses qu'on
connaît, qu'on dit depuis
le début. Ce qui s'aggrave. Non, mais donc ça rentre quand même en ligne de compte.
Il y a une petite coquetterie aujourd'hui dans le débat public français qui consiste à faire passer des positions hostiles à Israël dans sa riposte pour la ligne historique de la France sur la politique arabe de la France, etc. Moi, j'ai aucun problème avec la politique arabe de la France. J'ai aucun problème avec la ligne du général de Gaulle, évidemment. Je connais la conférence de presse de 67 et je sais très bien que tout ça a été notre position. Il y a juste des choses qui
changent. Discours de Mitterrand à la Knesset en 82, c'est la même.
Absolument. Et Chirac après, etc. Aucun problème avec ça. Mais, pardon, il y a des petites différences qu'il faut noter. Israël a subi une attaque qui c'est pas une guerre, c'est une attaque terroriste avec des massacres qui sont pas les mêmes. Sa souveraineté est menacée, l'intégrité de ses ressortissants, de ses frontières, tout ça. Ça fait quelques petites différences quand même qu'il faut noter entre 67 et maintenant. Aujourd'hui, Mélenchon a utilisé le même argument en disant c'est la ligne de la France. Mélenchon et Macron, malheureusement, ont la même boussole. C'est l'état des banlieues. Mélenchon parce qu'il veut les conquérir, Macron parce qu'il veut pas les brusquer. Moi, je pense ça, vraiment. Je pense sincèrement qu'aujourd'hui, pour des raisons de politique intérieure, ils décident d'habiller de manière cosmétique, un peu élégante, un discours qui, en réalité, n'est pas du côté de la victime, mais de l'agresseur. Et je dis, en disant ça, je suis pas insensible au sort des populations civiles de Gaza, évidemment.
Ils sont victimes aussi.
Mais je sais bien, Philippe, tout le monde le sait. Je pense que ça n'est remis en cause par personne. Mais on est en train quand même de mal juger la riposte d'Israël, alors que le 7 octobre au soir, avant que tous ces débats aient lieu, tout le monde disait, ils seront à Gaza dans 2 semaines, c'est normal, c'est une défense, ils ont été attaqués, ils ont raison de se défendre.
Personne n'a jamais remis en cause la nécessité pour Israël de répliquer. Mais dès son voyage...
Si on parle de cessez-le-feu, c'est arrêté. Enfin,
oui, ça d'accord. C'est sans condition. Après, ce qui a été évoqué, c'est le feu contre libération des otages.
Oui.
Ce qui est un autre débat. Mais encore une fois, je ne veux pas défendre plus qu'il ne le mérite Emmanuel Macron, qui est très confus, je te l'accorde. Dès son voyage en Israël, il dit à Netanyahou, attention, la guerre, votre réplique est légitime, mais la guerre, ce n'est pas sans règles. Or, c'est une question que tout le monde se pose. D'ailleurs, au passage, les Américains qui n'ont pas les mêmes problèmes de banlieue que nous ont exactement la même position. Ils l'expriment peut-être plus clairement. Mais depuis le début, Biden met en garde Netanyahou. Ce n'est pas Israël qui met en garde, c'est Netanyahou. La confiance dans le gouvernement israélien et notamment son premier ministre est, disons, très variable dans les chancelleries.
Oui, et la communication d'Emmanuel Macron est à géométrie variable, que ce soit sur le Proche-Orient, que ce soit sur la politique française, que ce soit, on va parler dans un instant, on a une petite minute avant la pause, avec aussi les rencontres de Saint-Denis, qui sont un échec, puisque pour le deuxième épisode, et on le verra dans quelques instants, cette initiative démocratique...
Je vais défendre Emmanuel Macron.
Mais il y a la moitié des responsables politiques qui ne veulent pas venir.
Oui, mais justement, je garde...
Est-ce que ce n'est pas un échec pour Emmanuel Macron?
C'est évidemment un échec pour Emmanuel Macron, mais je trouve que c'est un échec terrible pour les Républicains, mais j'y reviendrai.
D'accord. Et pour la communication d'Emmanuel Macron, même chose aussi.
Philippe et moi, on a tous les deux envie d'en parler après la pub, mais je vais quand même...
Bon, d'accord. Non, mais c'est vous. Juste en quelques secondes non,
moi,
pour...
Je vous réponds une chose. Oui. Avant qu'on ait le vrai débat de fond, c'est pour l'homme... Alors tiens, encore une fois, il s'était drapé dans ses habits gaullistes qui avait décidé de transcender les partis, tout ça nous conduit à la ruine, moi je vais dépasser tout ça, je serai au-dessus, etc. Il termine, au bout de 6 ans de mandat, enfin de 5 plus 1, il termine quand même par convoquer les partis dans une atmosphère très 4ème République.
Il voulait essayer de dépasser cette situation de 4ème République. En fait... Et je trouve que ses opposants, notamment les Républicains, mais pas tout seuls, sont complètement entrés dans une logique de 4ème République, dans ce qu'elle est le plus perverse.
C'est sa faute, je veux dire.
Non.
Mais avant qu'on ait le débat, on va se fliquer après. Mais
on va le faire maintenant.
C'est pas pendant la pub, en tout cas. Ça sera après. Restez avec nous.
Ce qui est très intéressant, pardon, c'est qu'il nous vend l'option gaullienne en 2017. Et il termine avec des majorités, des partis charnières en l'occurrence.
Mais là, il n'est pas seul responsable.
Il
y a une énorme responsabilité.
Une pause. On marque une pause et on continue le débat entre Geoffroy Lejeune et Philippe Guibert. On fera un point sur l'actualité également. Ça se dispute sur CNews. C'est dans un instant. Ça se dispute, la deuxième partie, toujours en direct sur l'antenne de CNews avec Philippe Guibert, avec Geoffroy Lejeune. On se retrouve dans un instant, juste après le point sur l'actualité. Simon Guilin, bonsoir.
Bonsoir Charles Lionel et bonsoir à tous. Israël autorise l'entrée quotidienne de 2 camions de carburant dans la bande de Gaza. L'État hébreu répond ainsi à une demande formulée par les États-Unis. L'ONU avait mis en garde mercredi contre un effondrement des opérations humanitaires dans l'enclave palestinienne. Alors que l'armée israélienne poursuit ses opérations militaires dans l'hôpital Al-Shifa, le Hamas annonce le décès de 24 personnes dans l'établissement de santé faute d'électricité. Le directeur de l'hôpital Al-Shifa affirme que la situation sur place était catastrophique. Et selon l'ONU, 2300 personnes seraient sans eau, sans électricité ni nourriture. Et puis les communications sont à nouveau totalement coupées avec la bande de Gaza. C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui le patron de l'ONU pour les réfugiés palestiniens depuis Genève. Philippe Lazzarini dénonce une tentative délibérée d'étrangler l'opération de l'ONU dans la bande de Gaza. Une panne totale de communication qui est directement liée à une pénurie de carburant, a-t-il ajouté aujourd'hui, cher Lionel.
Merci Simon Guillain. 22h pour le prochain point sur l'actualité, sur l'information, sur CNews. Ça se dispute. Deuxième partie, Philippe Guibert, Geoffroy Lejeune et les rencontres de Saint-Denis. Sont-elles vraiment utiles? Une initiative d'ampleur qui semble s'essouffler dès sa deuxième édition. Le référendum immigration était l'un des enjeux d'ailleurs de ce rendez-vous de Saint-Denis et il semble qu'il n'aura pas lieu. Les explications de Thomas Bonnet.
Le référendum sur l'immigration n'est plus à l'ordre du jour. Voilà la principale information à retenir de ces quelques 10 heures de discussion ce vendredi ici à Saint-Denis, dans le cadre des rencontres de Saint-Denis, deuxième édition. Aucun consensus ne s'est dégagé entre les participants sur cette question du référendum autour des questions migratoires. En l'absence d'Éric Ciotti, Jordan Bardella, le patron du Rassemblement national, a été le seul à défendre cette mesure. Écoutez ses réactions à l'issue des discussions au micro d'Axel Rebaud.
J'ai été aujourd'hui à Saint-Denis le seul porte-parole de la France qui veut maîtriser l'immigration. Le président de la République n'envisage pas pour l'instant cette possibilité. Je lui ai dit que la loi qui était actuellement en discussion au Parlement ne suffirait pas et qu'elle serait somme toute assez dérisoire.
Je sors avec une grosse satisfaction, une satisfaction immense. C'est qu'il n'y aura pas de référendum sur l'immigration. Il y a deux personnes qui le portaient fortement. L'une n'est même pas venue, et donc je ne comprends pas à quoi ça sert de porter fortement une proposition, que le président la mette à l'ordre du jour d'une réunion, et vous venez même pas sur des prétextes fallacieux auxquels personne n'a rien compris.
Pas de concret non plus en ce qui concerne les autres thématiques abordées, comme la situation internationale ou encore le statut institutionnel de la Corse et de la Nouvelle-Calédonie, mais une promesse à l'issue de ces discussions de Saint-Denis, la poursuite de ces échanges dans les prochaines semaines, voire les prochains mois.
On pourrait dire tout ça pour ça, Philippe Guibert. Il a été décidé de ne rien décider, notamment sur le référendum concernant l'immigration. C'est ce qui était très attendu aujourd'hui.
Oui, mais derrière le référendum sur l'immigration, en fait, il faut une révision constitutionnelle. Donc c'est toute la révision constitutionnelle qui a l'air un petit peu bloquée. Enfin, en tout cas, pour une partie qui concernait l'élargissement de l'article 11 au sujet dit de société. Et là, on peut, selon ses opinions, regretter ou s'en féliciter. Mais là où Marine Tondelier a parfaitement raison, c'est que la politique de la chaise vide menée par l'excellent Éric Ciotti est incompréhensible. Voilà quelqu'un, on peut faire plein de critiques à Emmanuel Macron.
C'est Éric Ciotti, le président des Républicains, qui a refusé de venir aujourd'hui à Saint-Denis.
On commence la discussion sur le projet de loi à l'immigration. Éric Ciotti dit « je ne voterai rien, on ne votera rien s'il n'y a pas une révision de la Constitution pour faire un référendum sur l'immigration ». Emmanuel Macron a entendu le message et fait une ouverture sur une révision de la Constitution qui pourrait permettre un jour de faire un référendum sur l'immigration. Et au moment où ça se discute, Éric Ciotti dit « moi je viens pas ». Donc en fait, Éric Ciotti est exactement comme sur la réforme des retraites, c'est par rapport à Emmanuel Macron et l'exécutif, c'est une sorte de tentative de supplice chinois où on fait monter les enchères pour dire « on ne votera que si il y a ça, et il y a ça, et il y a ça en plus ». Et au moment où on peut essayer de trouver un compromis, on n'est pas d'accord parce que Emmanuel Macron n'a pas été à la marche contre l'antisémitisme, parce qu'il a dit bleu, parce qu'il a dit jaune, parce qu'il a dit rouge. Je trouve qu'Éric Ciotti et les Républicains avec lui se comportent comme un vulgaire parti charnière de la 4e République qui n'a jamais le courage de retourner devant les électeurs, parce qu'à un moment donné, si on n'est pas d'accord, si on trouve que Emmanuel Macron et son gouvernement, ça ne va pas, il faut voter les motions de censure, les amis. Il faut être cohérent dans la vie. Mais on ne peut pas laisser le pays dans une situation de blocage politique et parlementaire en étant une fois « Ah non, on ne va pas voter la motion de censure parce que si on retournait devant les électeurs, oulala, on ne sait pas ce qui pourrait se passer pour nous. » Et puis en même temps, d'empêcher toute évolution en refusant tout compromis. Et donc, voilà, depuis la réforme des retraites, il y a une contradiction fondamentale dans la position des Républicains. Faisons toutes les critiques qu'on veut à Emmanuel Macron, on n'y manque pas. Mais là, les Républicains, et je trouve qu'ils se... Pour un parti héritier du général de Gaulle, c'est quand même un reniement assez important.
C'est même le paroxysme de la contradiction pour la classe politique, car il est fort probable, Geoffroy Lejeune, que le sujet du référendum sur l'immigration revienne sur le tapis dans quelques jours. C'est pas parce qu'aujourd'hui, il a été décidé de ne rien décider ou de reporter ou de ne pas évoquer le réfugié. Oui, bien évidemment, mais ça va peut-être... Oui, voilà, exactement, allons-y. Peut-être que les Républicains peuvent ressortir ce sujet.
Je l'espère. Je suis d'accord avec rien de ce qu'elle dit. Rien du tout.
Ah, ça c'est bien.
En fait,
c'est bien pour une émission.
On va être d'accord sur les faits, on va commenter les mêmes faits, mais ma lecture est radicalement différente. Les Républicains déjà se comportent comme un vulgaire parti charnière de la 4ème République, comme tu l'as dit, parce que c'est le cas. On est quasiment en 4ème République.
Ah, ouais, mais
et ils sont un
parti charnière. Je te laisse terminer.
Donc moi je les comprends et je joue leur rôle. Ensuite, je comprends Ciotti. L'argument de Marine Tondelier est grotesque. Éric Ciotti ne veut pas être un gilet jaune, je m'explique. Les gilets jaunes ont manifesté par centaines de milliers pendant des mois en étant soutenus par 80% de la population française. Et à la fin, Emmanuel Macron leur a fait un numéro de cirque, allez, de passe-passe, qui s'est appelé le Grand Débat, où il a fait semblant de les écouter et de leur parler.
Un chèque de 10 milliards, voire même 15.
Mais pas sur ce qu'ils demandaient, c'est ça le problème. Non. Il y a eu des petits coups de pouce, une obole qui a été donnée aux gilets jaunes, mais sur le fond...
Ça fait cher le
15 milliards, après il a fait 150 avec le Covid, il sait faire des chèques Emmanuel Macron. Sur le fond de la revendication qui était « on ne compte pour rien dans ce pays » et « où va notre argent ?», il n'a rien fait. Il a fait une obole, mais il n'a rien fait. Et donc, Éric Ciotti ne veut pas être un gilet jaune, ça ne veut pas passer son temps, perdre son temps, si je puis me permettre, à écouter Emmanuel Macron faire des moulinets avec ses bras pour, à la fin, servir de caution à quelque chose qui ne donne rien. Donc la question du référendum sur l'immigration, deux choses. Premièrement, il faut que les gens comprennent, c'est très important, que tant qu'il n'y aura pas de référendum de révision constitutionnelle et de référendum sur l'immigration, il ne se passera rien. C'est-à-dire que la révision constitutionnelle permet le référendum sur ce que tu dis, les questions de société, c'est-à-dire donc l'immigration, par exemple. Ça, on est d'accord. Il faut ça, c'est une urgence vitale. Et deuxièmement, tant qu'il n'y aura pas de référendum où la voix du peuple français souverain décidera de mettre sa volonté au-dessus des textes, des lois, des jurisprudences supranationales et notamment européennes, tant qu'il n'y aura pas ça, il ne se passera rien. On le voit d'ailleurs avec la loi immigration de Gérald Darmanin. Moi, j'ai rien contre parce que ça améliore plutôt les choses, mais ça ne règle pas le problème. Donc c'est très important de comprendre que tant qu'il n'y a pas de référendum, tous ceux qui vous parlent de légiférer sur l'immigration sans référendum ne veulent pas régler le problème qui est en gros Lampedusa, l'immigration massive, l'impossibilité d'expulser, etc. C'est pour ça que c'est un préalable à la discussion. Et là où Ciotti a raison selon moi, c'est que, pardon je suis un peu long, mais là où Ciotti a raison selon moi, c'est que l'ouverture dont tu parles d'Emmanuel Macron, c'est le coup qu'il nous a fait 150 fois. Ah peut-être, pourquoi pas,
mais
on verra bien, non, etc. Mais il faut un engagement du président de la République sur le sujet.
C'est pas une question d'engagement du président de la République, d'abord parce que les engagements, il les a faits, les ouvertures, il les a faites. Deuxièmement, pour faire une révision constitutionnelle, je rentre même pas sur le débat, on pourrait reprendre la thèse de Guénot à laquelle je crois plus, parce que le référendum sur l'immigration n'empêchera pas les migrants d'arriver à Lampedusa. En revanche,
objection. Enfin, si on s'affranchit des règles européennes, on peut les refouler, par exemple.
Oui, mais le meilleur moyen de retrouver une marge par rapport aux règles européennes, c'est ce que propose Henri Guénot en faisant voter une modification de l'article 55 de la Constitution qui permet de rétablir la supériorité des lois nationales dernièrement votées sur les traités préalables.
Bon,
c'est un débat technique, mais je reprends la discussion politique. Pour faire une révision constitutionnelle, donc pour avoir ce référendum sur l'immigration, sans entrer sur le débat sur ce référendum, il faut forcément un compromis. C'est inscrit dans la Constitution. Parce que pour réviser la Constitution, il faut un texte sur lequel le Sénat et l'Assemblée nationale soient d'accord. Et donc ça suppose forcément un accord avec l'ensemble des forces politiques.
Ouais.
Et donc si celui qui propose et qui a mis ça comme condition, M. Ciotti, commence par dire « moi je ne vais pas aux réunions pour en discuter », on est en pleine politique aérie, Geoffroy. C'est grotesque. Donc si tu ne trouves pas un compromis qui implique la gauche et qui implique la droite, pour avoir ta majorité, pour voter un texte dans les mêmes termes à l'Assemblée et le Sénat, c'est même pas la peine de faire une révision constitutionnelle.
Et c'est pour ça.
Donc tout ce que tu racontes, à tort ou à raison, sans entrer dans le débat sur la réforme de l'immigration, ne veut rien dire. Tant que t'as pas la révision constitutionnelle, parce qu'aujourd'hui tu peux pas le faire.
J'ai pas dit l'inverse, hein, je suis d'accord avec ça.
Et c'est peut-être pour cette raison que ces rencontres de Saint-Denis sont un échec.
Mais oui,
c'est aussi pour cette raison que ces rencontres de Saint-Denis sont un échec.
J'ajoute juste un mot, excuse-moi. À qui profite le crime aujourd'hui, du point de vue de Ciotti? À Ciotti, aux Républicains? Non. Celle qui progresse, le parti qui progresse, tout le monde le connaît, c'est le RN et c'est Marine Le Pen. Donc, où est la logique de Rick Ciotti et des Républicains d'avoir toute une tactique
un peu politicarde vis-à-vis d'Emmanuel Macron, dans une situation où il n'existe plus et où c'est le RN qui monte.
Le comportement de Ciotti, à la limite, il est anecdotique dans l'histoire.
Ah non, non.
Mais je défends le truc parce que je peux comprendre quand tu es président de parti, d'un parti, même s'il est aujourd'hui réduit à portion congrue, qui est quand même un parti important dans l'histoire de France, que t'en aies marre d'être convoqué par le président de la République.
Mais fais pas de la politique avec des sentiments, Geoffroy.
Mais non,
tu fais de la politique avec des arguments et avec des stratégies. De dire d'en avoir marre, tout le monde en a marre.
Non, je veux dire, tu vois,
on fait pas de la politique.
D'en avoir marre, non. En fait, pourquoi moi j'en ai marre, par exemple. Pourquoi j'en ai marre? Parce qu'on entend Marine Tondelier qui dit « je me félicite, il n'y aura pas de référendum, c'est exceptionnel, c'est génial ». Sur le sujet de l'immigration, elle représente, en tant qu'immigrationniste, béate, heureuse, elle trouve que l'immigration c'est formidable et que globalement le système va très bien.
Une position minoritaire.
Elle représente 20% des gens, maximum, dans le pays, voilà.
Entre 20 et 30.
Entre 20 et 30, mettons 30, je te l'accorde.
Ça dépend ce que tu mènes dans ton référendum sur l'immigration.
Mais d'accord, mettons 30%. 70% des Français pensent comme moi, c'est-à-dire qu'il faut mettre un coup d'arrêt à ce système délirant dans lequel nous n'avons plus aucune maîtrise. Bon, maintenant, quand ton président c'est Emmanuel Macron et qu'il est capable de dire blanc et noir dans la même minute... qu'il est capable de te faire croire qu'il va être d'accord pour le référendum. Non, mais c'est ça aussi.
C'est pour cette raison que le référendum est indispensable, selon vous, pour que la loi immigration soit une loi de qualité?
Le référendum, il est indispensable parce que c'est le seul moyen de reprendre la maîtrise par rapport à des décisions de justice, des lois, des textes normatifs qui sont votés ailleurs qu'en France. C'est ça le sujet.
C'est sûr de Philippe Guibert, juste un petit mot et après
la clé,
dernier
si on
sujet.
Veut reprendre la main, c'est ce que disait Henri Hainaut, c'est d'être capable de dire à un moment donné, nos lois sont supérieures à ce qui est contenu dans les traités et ce qui découle des traités.
C'est ce que je dis.
Mais je suis d'accord. C'est ça la vraie question fondamentale.
Mais on est d'accord.
Mais je reviens à cette histoire de référendum sur l'immigration. Je veux bien qu'on ait de la défiance vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Ça, je peux tout à fait le comprendre de la part d'opposants, si en plus. Mais comment on peut mettre Emmanuel Macron devant ses responsabilités quand on fait la politique de la chaise vide? C'est trop facile pour lui. Ce qu'il a fait, Emmanuel Macron, ce soir, à mon humble avis, c'est qu'il a claqué la porte au nez d'Éric Ciotti en lui disant « Tu voulais à tout prix un référendum de l'immigration, le jour où on discute, tu n'es même pas là pour des motifs, comme l'a dit Marine Tondelier, auxquels personne n'a compris grand-chose. » Donc, tout ça est de la politique politicienne. Si Ciotti veut faire exister les Républicains et veut empêcher d'être complètement mangé par le Rassemblement national, parce que c'est quand même ça le plus grand risque, eh ben, il fallait qu'il trouve un compromis. Il n'a pas été capable de le trouver sur la retraite, il ne le trouve pas sur l'immigration. Peut-être que Macron en sera la victime, mais ce n'est pas Emmanuel Macron qui sera candidat la prochaine fois en 2027.
En tout cas, il a bien du mal à fédérer, et notamment dans ses rencontres de Saint-Denis, dont on aura l'occasion de reparler. J'aimerais qu'on prenne encore quelques minutes, les dernières minutes de l'émission, pour évoquer cette marche, ce rassemblement qui aura lieu dimanche. C'est la mère de Naël qui a appelé à ce rassemblement à Nanterre, quelques jours après la libération du policier auteur du tir mortel sur son fils. Elle dit « Je me battrai, je ne lâcherai rien pour mon fils. Venez nombreux pour soutenir à 15h à Nanterre, place Nelson Mandela. Merci beaucoup. Est-ce que cette manifestation, Geoffroy Lejeune, ne risque pas, alors que l'on voit les mots donc de la mère de Naël à l'écran, de mettre de l'huile sur le feu? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a le sentiment que si le policier est resté plus de 4 mois en détention, c'est pour une espèce de paix sociale, pour éviter que les quartiers ou la banlieue s'embrasent. On se souvient des émeutes, elles sont encore tout à fait récentes. Désormais, le policier est libre et la mère de Naël appelle à un rassemblement.
En fait, il n'aurait jamais dû être en prison. On peut débattre de ça, mais moi je pense qu'il aurait jamais dû être en prison. Et la raison pour laquelle il est allé en prison, c'était pour éviter des émeutes. On a eu des émeutes. La raison pour laquelle il est resté 4 mois en prison, c'était pour éviter qu'il y ait de nouvelles émeutes. À l'heure où on parle, je pense que l'émotion est quand même très largement retombée. Je suis pas certain que cette manifestation marche très bien. Ce qui était désiré a été obtenu. Il a payé lui tout seul. Pour éviter, c'est toujours la même chose, hein. C'est Yassine Bellatar qui fait la loi. Yassine Bellatar, Assa Traoré, c'est la même bande. Mais ce sont ces gens-là qui tétanisent les gens qui nous gouvernent. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, ce monsieur a passé 4 mois en prison alors qu'il présentait aucune menace, aucun des risques, si vous voulez, qui impliquent normalement la détention provisoire. Donc déjà, je trouve ça choquant. Ensuite, je me fais une réflexion. Pardon, hein, mais c'est peut-être déplacé. J'ai pas perdu d'enfant. Je sais que voilà, mais je connais beaucoup, beaucoup de gens, et notamment le même profil que les familles de Naël, qui seraient très mal à l'aise à l'idée de revendiquer, comme le fait cette maman, des choses, alors que leur fils aurait été, se serait rendu, non pas coupable, mais se serait rendu, aurait été l'auteur de deux refus d'obtempérer et d'une course-poursuite avec des policiers, etc. Même si, évidemment, la mort est un drame, etc. Mais
ouais, surtout, à l'origine, vous ne méritez pas la mort. Mais bon,
c'est... Non, mais ça, là-dessus, je ne conteste pas. Mais à l'origine, il y a une course-poursuite, deux refus d'obtempérer. Et je trouve que le comportement des gens qui soutiennent la manifestation, qui ont été dans la première manifestation juste après les faits, fait très rapidement, enfin fait peu de cas du fait qu'à l'origine, le problème, c'était quand même le comportement.
La question, Philippe Guibert, c'est est-ce que ces rassemblements, cette manifestation sont légitimes ? C'est la question qu'on peut se poser. Et finalement, est-ce que ceux qui l'organisent, la mère de Naël en tête, mais sans doute n'est-elle pas la seule, elle est conseillée, ont-ils conscience qu'il y a un risque d'embrasement avec cette manifestation ?
Il y a un point sur lequel je suis d'accord avec Geoffroy, même si les autres, je suis moins d'accord. C'est sur le fait que je ne pense pas que cette manifestation... Je pense qu'on a changé de sujet et que le sujet de Naël a été le déclencheur et le prétexte des émeutes qu'on a connues en juillet, et qu'aujourd'hui on est passé dans une autre période marquée par le Proche-Orient et la guerre à Gaza.
Et ce n'est pas lié ?
Alors il peut toujours... La particularité des gens comme nous qui faisons des analyses sur les étincelles qui peuvent provoquer l'embrasement, c'est qu'on se trompe toujours. Alors donc moi je pense comme Geoffroy que ça ne prendra pas. Maintenant... Il y a un point qui me paraît essentiel dans tout ce qu'on dit. Tout ça a eu lieu fin juin, début juillet. La mort de Naël, c'est fin juin, début juillet. Nous sommes aujourd'hui à plus de la moitié du mois de novembre. Ça fait donc pas loin de 6 mois, à ma connaissance. Je ne comprends pas que cette affaire judiciaire qui a été hypersensible, l'enquête mène plus de 6 mois. Je ne comprends pas. Il y a des enquêtes judiciaires où on comprend... que le temps soit très long quand il s'agit de démanteler un réseau de blanchiment d'argent avec des ramifications internationales dans des trafics de drogue, ça prend du temps. Mais là, on n'est pas dans une affaire où les interlocuteurs ou les témoins ou les acteurs sont innombrables. Et donc l'enquête, où est-ce qu'elle en est ? Et quand est-ce qu'on aura un jugement ? Le rôle de la justice, c'est de protéger la société, de punir ceux qui nuisent à la société, mais c'est aussi de contribuer à la concorde civile. Et je trouve que cette lenteur de la justice, dont on connaît une partie des causes, qui est le manque de moyens, etc., mais je ne sais pas si en l'occurrence ça excuse tout, je le trouve aberrant. D'où le problème de la détention provisoire aussi. Parce que là aussi, je suis d'accord avec vous, pas sur le reste. Elle a été utilisée à des fins de paix civile et de paix sociale, avec des succès divers. Donc, mais c'est un, de facto, comme dans plein d'autres affaires, un détournement de la détention provisoire. Mais cette lenteur de la justice est incompréhensible, et sur une affaire à la fois aussi grave et tragique, parce qu'il y a quand même mort d'homme. Et je répète qu'un refus d'obtempérer ne doit pas entraîner la mort, et que les conditions dans lesquelles ce policier a ouvert le feu restent vraiment à comprendre, et pourquoi il en est arrivé là.
Il y a une enquête en cours, bien sûr.
Et ça, c'est le rôle de l'enquête.
Bien sûr.
Et puis c'est aussi un problème peut-être de doctrine de la police, on pourra en discuter, mais c'est aberrant que 6 mois après, on ne sache pas où on va. Donc cette mère qui est à l'évidence manipulée un peu par le clan Traoré, se retrouve de façon peu légitime à réclamer, à faire une manifestation, alors que le policier a passé 4 mois, plus de 4 mois, en détention provisoire.
Mais qu'il a été libéré, c'est ce qui provoque
la lenteur de la justice. Ça, ce serait légitime.
Une minute, Geoffroy Lejeune, pour conclure. Est-ce que l'on veut politiser l'affaire Naël ? Très vraisemblablement, oui. Et est-ce qu'on veut en faire le nouvel Adama Traoré ou un autre Adama Traoré ?
Non, mais ça n'est que ça. Enfin, je veux dire, il faut.
Ce n'est que ça.
Ah, ça n'est que ça. C'est-à-dire que, encore une fois, je vais mettre de côté.
L'affaire est plus convaincante que celle d'Adama Traoré, dont on
savait. Oui, mais en tout cas, on veut en faire un symbole.
Dont on savait qu'elle était.
Il reste 30 secondes.
On ne savait pas que l'affaire Adama Traoré était une fausse affaire. On a su après, mais pendant
très assez vite.
Non, je me souviens de Louis Dragnel, mon camarade d'Europe 1, qui révélait des éléments sur l'affaire Traoré. tombé dans les années 2017, et qui se faisait insulter. Non, voilà, ça a mis beaucoup de temps. Là, honnêtement, c'est évidemment ça. En effet, elle est manipulée par le clan Traoré, qui, une fois qu'il a perdu son affaire, a besoin de se trouver de nouvelles causes pour les mêmes raisons. C'est-à-dire, en fait, c'est déclencher des étincelles, monter des gens contre la police ou la gendarmerie, puisque Traoré c'était la gendarmerie, et obtenir ce qu'ils ont obtenu en juillet. Ils devaient être les plus heureux du monde quand ils ont eu les émeutes de juillet.
Merci Geoffroy Lejeune, merci Philippe Guibert.
Merci à vous.
À très vite pour Ça se dispute dans un instant. C'est Olivier de Kerenfleck, Soir Info sur CNews. Bonne soirée.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.